suis juste en train de me dire que ça va être peut-être un peu compliqué ce texte, mais je vais le faire, et puis on jugera après de... Voilà. Bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On est ravis de vous retrouver pour Parler Temps qui court, tous les soirs, une heure, avec un ou une artiste, ce soir, Dovalouche.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux t'appeler, t'es.
Ça y est, je suis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, voilà, ça résume.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Parlez-t-on qui court.
Marie Richeux avec Dove Alouche.
Ramasser la peau de leur voix à l'ombre de leurs gestes.
Hier, j'étais guidée par Camélia, la grosse porte de musée laissée entrouverte, au sixième étage côté pompier, sac à dos et casque de vélo abandonnés sous l'œil ancestral et bienveillant d'un crâne d'Homo sapiens de plus de 28 000 ans, nous avons remonté, au pas de course, les salles de cette extraordinaire exposition préhistoire, actuellement visible au Centre Pompidou Paris. Après une première rencontre avec la Vénus de Lespug, qui est datée à moins 23 000 ans, un jeu de reconnaissance au milieu des œuvres de Giacometti, Brassailles ou Harpe, nous sommes arrivées toutes les deux dans la salle qui abrite vos œuvres, Dove Alouche, et la lumière s'est brusquement éteinte. De sorte que nous avons vu vos œuvres à la lueur de nos téléphones portables qui en accentuaient leur étrange vibration. Alors il n'est pas du tout étonnant de vous trouver dans une exposition qui explore toute l'épaisseur du temps quand vous exposez par ailleurs à la Galerie des Cotels à Versailles un travail autour du gypse de Versailles dont vous allez nous parler. Bonsoir à vous, Dove Alouche.
Bonsoir.
Le dernier travail que j'évoque fait partie d'une exposition plus large qui s'appelle « Visible et invisible » et qui expose aussi les œuvres de Nan Goldin, Martine Parr, Viviane Jassen et Éric Poitevin. Alors on va commencer par cette galerie des Cotels qui va être notre entrée dans l'épaisseur du temps de une heure d'entretien avec vous, Dove Alouche. Déjà, c'est quoi cette galerie ?
Alors la galerie des Cotels, donc c'est un espace en fait aux dimensions vraiment étranges, hein, puisque c'est 80 mètres de galerie de longueur, 15 mètres de large, dans laquelle sont installés 24 tableaux de Jean Cotel. Et ces 24 tableaux représentent en fait les bosquets, les fontaines, les jardins de Versailles. En quelque sorte, en fait, si vous voulez, c'est des tableaux qui correspondent au point de vue du roi Soleil sur les jardins de Versailles et qui témoignent aussi en fait du goût du roi pour la nature.
Alors vous avez reçu une invitation à exposer dans cette galerie précisément ?
On m'a laissé le choix, hein, ça ne m'a pas été imposé comme ça aussi directement. On m'a laissé le choix en me signifiant que ce serait bien de choisir la galerie des Cotels puisque c'est la première fois en fait vous voulez organiser une exposition d'art contemporain, si vous voulez, dans ces espaces. Et j'ai été tout d'abord quand même extrêmement impressionné, hein, puisque les lieux sont somptueux, grandioses. Et convaincu par cet ensemble de peintures, encore une fois, qui est très particulier dans l'histoire du paysage, en fait. Hein. Donc c'est, si vous voulez, ce qui m'a convaincu, c'est d'une part les dimensions de la galerie, et d'autre part les tableaux de Jean Cotel eux-mêmes, en fait.
Qu'est-ce qui vous intéresse, justement ? C'est le fait qu'ils ils prennent presque le parti du point de vue du roi ? C'est le fait qu'ils soient, justement... attardé sur les détails, les bosquets, les jardins de Versailles.
Mais c'est une galerie, si vous voulez, qui est rythmée par des porte-fenêtres. Entre chaque tableau, en fait, vous avez des grandes ouvertures vers les jardins. Et entre chaque porte-fenêtre, en fait, se trouve un tableau, en fait, qui... Donc, c'est des jeux de va-et-vient entre...
Qui peint ce qu'on voit par la fenêtre, en fait.
Absolument, c'est ça. Donc, c'est que des allers-retours entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, c'est une salle qui est extrêmement perméable, comme ça, vers l'extérieur. et qui est à l'image de Versailles, c'est-à-dire que à la fois dans ses dimensions et dans les matériaux, en fait, qui sont présents dans l'espace, en fait, hein, parce qu'il y a sont présents dans cet espace, en fait, tous les matériaux qu'on s'attend à voir à Versailles, des marbres, des dorures, des stucs peints, de l'argent, vous voyez tous ces matériaux qui ont fait la grandeur de Versailles. Sont présents au sein de la galerie des Cotels. Et j'avais, dès le départ, justement, cette idée que je ne m'intéresserais pas, si vous voulez, au Versailles des apparats, et que je cherchais le moyen, si vous voulez, de trouver une entrée, justement, et d'évoquer Versailles autrement, et en tout cas d'inscrire Versailles autrement dans la flèche du temps. Et donc ces matériaux, en fait, si vous voulez, dont je parlais, ont tous, quand on les observe de près, ils ont tous une fonction symbolique très spécifique. Et assez vite, en fait, très vite dans le projet, puisqu'en fait, j'ai été invité en octobre dernier, donc les délais étaient assez courts. Donc, il a fallu, avant la fin de l'année 2018, se décider sur un projet. Et assez vite, j'ai fait le choix du gypse, qui est présent partout à Versailles, qui n'a pas la noblesse ni l'éclat du marbre, mais qui est présent de la construction au décor. Donc, pour information, le gypse, en fait, est employé pour les plâtres, les stucs, les mortiers... donc voilà, c'est un peu, si vous voulez, le matériau pauvre, et en même temps, c'est un matériau qui est extrêmement abondant, en France en tout cas, et qui s'oppose au goût de Versailles pour les choses rares. Donc c'était la première raison de mon choix.
Et la deuxième ?
Et la deuxième, en fait, c'est surtout la seconde raison qui compte, c'est que le gypse, c'est un minéral, mais c'est aussi une roche sédimentaire. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, son contenu dans ces échantillons de gypse, des sédiments, et c'est à partir des sédiments qu'on arrive à... Comment dire, qu'on arrive à remonter comme ça, à traverser les âges successifs de la Terre, à faire ce qu'on appelle de la chronologie relative, c'est-à-dire vraiment
à partir des strates, hein,
à partir des strates et des sédiments eux-mêmes. En fait, c'est une science, la sédimentologie. En fait, je me suis servi de la sédimentologie, si vous voulez, pour atteindre à une réalité vivante de Versailles. En fait. Et puis surtout, les sédiments contiennent un tas d'informations sur nos origines. Et donc c'est à partir des sédiments qu'on arrive à tracer une ligne continue, en fait, de notre histoire. Et ça, c'est pour moi une raison, si vous voulez, qui justifie l'existence de l'art, en fait.
Oui, alors c'est ce que j'allais dire, vous n'êtes pas complètement archéologue ni spécialiste de sédimentologie. Ça veut dire qu'à chaque fois, Devalouche, que vous prenez une piste comme ça, par exemple sur l'invitation de cette exposition, vous effectuez des recherches, vous allez rencontrer des gens, vous allez leur poser des questions. Il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre, qui est tout un champ, y compris un champ de recherche et un champ intellectuel, avant la réalisation qu'on pourrait dire plastique.
Alors oui, un champ de recherche, d'expérimentation aussi, et puis de rencontres, vous avez raison, une part de chance aussi. Hein. Si vous voulez, l'idée, toujours autour de ce gypse, hein, c'est qu'il n'était pas question pour moi, en tout cas, de me le procurer autrement que par prélèvement. C'est-à-dire que le prélèvement, en somme, la fouille, c'était à la base du travail et du projet. J'en ai fait un acte vraiment fondamental dans mon propre travail. Donc, pour le prélever, il a fallu que je sois accompagné d'un chercheur, professeur à l'université de Bordeaux, qui s'appelle Sébastien Zaragozzi, avec qui je travaille assez régulièrement et qui travaille au sein d'un laboratoire Époque et à Bordeaux, et on est allé sur les côtes basques à la recherche d'un échantillon. Le projet a commencé vraiment comme ça. Donc c'était un jour de pluie, on est allé donc sur le long des plages de Bidart, et on a ramassé un bloc de gypse d'une quarantaine de kilos. On n'en a pris qu'un seul, donc c'était un pari aussi, si vous voulez, la question...
Vous pariez sur quoi à ce moment-là? Vous vous dites, il faut que mon bloc de gypse y soit d'une manière particulière, il faut qu'il ait quelque chose de singulier?
Bah, là, la singularité, si vous voulez, de ce bloc, c'est qu'il était plus ou moins circulaire, donc il avait une forme de disque. D'après Sébastien, donc, qui est géologue, hein, c'était un bloc qui avait plus de 250 millions d'années. Donc, si vous voulez, moi, c'était une information qui suffisait, en fait, à mon choix. Et après, le pari, si vous voulez, c'est que le principe de l'échantillonnage, c'est que tant que la pierre n'est pas ouverte, hein, vous ne savez pas ce qui se trouve dedans. Donc, c'est toujours un pari, c'est-à-dire où l'expérience compte, mais c'est surtout la chance, en fait, à la fin. Et le gypse, en fait, si vous voulez, c'est un minéral, en fait, qui provient d'une évaporation de roches salines. Donc, c'est des bassins fermés. Et ce qui a donné le titre à la série, hein, les évaporites. Donc ce gypse ensuite il s'enfouit et il remonte un peu à l'image, si vous voulez, du bouchon de liège qui remonte à la surface, du bouchon de liège qu'on lâche au fond de la baignoire et qui remonte à la surface. Et en remontant, il se ferait un chemin, c'est une pierre très tendre, et en remontant, il se ferait un chemin dans les glaises, et il se choque. Et il se charge aussi, si vous voulez, d'éléments, donc de sédiments, on en parlait tout à l'heure, mais aussi de cristaux. Et c'est les cristaux, en fait, qui vont donner la couleur au gypse. C'est pas du tout le gypse, hein. Le gypse, c'est une couleur blanche, un aspect vitreux. Et ça, typiquement, si vous voulez, tant que l'échantillon n'est pas ramené au laboratoire et ouvert, vous n'avez aucun moyen de vous en rendre compte. Le pari, c'est ça.
Alors, on va faire un saut dans le temps et on va se dire que ça y est, vous avez fait tout votre travail et que le vernissage commence à Versailles. On est très très loin de ce que vous décrivez de Valouche. Qu'est-ce qu'on voit dans la galerie des Cotels? Et on va y revenir sur tout le processus qui vous y mène, mais qu'est-ce que vous accrochez finalement?
Alors,
vous avez fait votre échantillon sous la pluie, et là, c'est le jour du vernissage.
Alors, entre-temps...
Non, pas entre-temps. Hein. Qu'est-ce qu'on voit alors d'arriver au processus?
Une ellipse de plusieurs
mois.
Je
fais une grosse ellipse de plusieurs mois sur laquelle on va revenir.
Donc, le soir du vernissage, donc vous voyez 10 images colorées, extrêmement colorées, qui sont de proportions à peu près égales au tableau de Jean Cotel, hein, qui sont présentées transversalement par rapport au tableau, par rapport au mur, en fait, au mur.
Donc perpendiculaire aux fenêtres, quoi.
Exactement, perpendiculaire aux fenêtres et dans l'alignement des fenêtres, justement pour ne pas rentrer en collision visuelle avec les tableaux eux-mêmes. Donc ils sont accrochés en quinconce. Donc 10 tableaux, parce que de part et d'autre de la galerie sont accrochés 2 fois 10 tableaux de Cotel. Donc il y avait des raisons à la fois numériques et encore une fois de dialogue direct avec les tableaux eux-mêmes, hein, les tableaux de Jean Cotel. Donc on voit 10 images colorées dont on ignore absolument
la provenance,
l'origine, la matérialité
aussi,
quoi,
ouais.
Si vous voulez, la matérialité. C'est des images qui n'ont pas de modèle évident. C'est des images qui renvoient ni au monde des objets donnés, ni au monde des sujets observés ou observables. Donc, si vous voulez, c'est des images qui racontent leur propre matérialité, en fait. Donc, d'où le cartel. Donc, on est le fort du vernissage. Vous avez une première simèse, en fait, puisque les simèses sont accrochées recto verso. Donc, je précise que les simèses ont été dessinées par l'agence d'architecture à la Wardé, en fait, qui a dû faire un travail vraiment de très très haute précision, si vous voulez, pour que les simèses elles-mêmes soient cohérentes par rapport aux simèses qui reçoivent les tableaux de Jean Cotel. Enfin, tout a été pensé dans la précision pour cet accrochage. Donc le premier mur, donc ces images que j'accroche recto verso sur les simèses, en dehors du premier mur, c'est-à-dire quand vous pénétrez dans la galerie, vous avez un mur blanc, donc sans images, avec un cartel que peu de gens lisent malheureusement, mais enfin on a essayé de le faire le plus court possible. Donc on est le soir du vernissage et là j'ai 15 000 questions sur l'origine des images.
Et vous leur répondez que après cet échantillonnage, vous vous êtes adonné à un processus très spécifique qui prend du temps pour aboutir justement à ces images. En vous écoutant, je me disais, de Valouche, quand vous dites que ce sont des images qui parlent de leur propre matérialité, à la limite, moi, la seule chose à laquelle elles se sont raccrochées, c'est de la peinture.
Absolument. Ouais, vous avez raison. En tout cas, elles évoquent d'une part les couleurs de Versailles et d'autre part une certaine histoire de la peinture.
Ouais.
Vous avez raison.
Moi, j'ai été plus du côté de Pollock que du côté du prélèvement de gypse, par exemple.
Alors, c'est un Pollock qui aurait 250 millions d'années, si vous voulez. Donc, et c'est, comment dire, un baroque qui a le même âge. Donc, les couleurs, si vous voulez, qui sont présentes sur ces images, hein, elles sont le résultat, si vous voulez, du rayonnement des cristaux eux-mêmes, des cristaux qui sont contenus dans le gypse. Il n'y a aucune intervention de ma part.
Peut-être on décrit le processus.
Alors, si vous voulez, le processus, en fait, j'ai utilisé un procédé qui est très bien connu en minéralogie, qui s'appelle le procédé de polarisation de teinte par polarisation et biréfringence. En fait, c'est très simple, si vous voulez. Ce gypse a été découpé en 12 lamelles très fines. C'est 30 microns d'épaisseur, donc il faut imaginer.
Oui, c'est très 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 fin.
Il faut s'imaginer, en fait, pour se figurer cette épaisseur-là, si vous voulez, on est inférieur, largement inférieur à l'épaisseur d'une feuille. Donc c'est le gypse lui-même, en fait, qui a servi de négatif photographique pour produire les images. Sauf que pour révéler les cristaux qui sont présents à l'intérieur du gypse, on est obligé d'utiliser un principe de polarisation. Les cristaux vont émettre un rayonnement, une longueur d'onde, une couleur qui les caractérise. Donc chaque cristal, en fait, est reconnaissable, si vous voulez, à partir de la couleur qu'il génère.
Et ça s'imprime sur du papier photo ?
Exactement. Donc en fait, il n'y a pas d'appareil photo, il n'y a pas de prise de vue. La source du travail, l'origine du travail, c'est le prélèvement lui-même, en fait. Hein. Et ensuite, le découpage, je vous dis, qui est fait donc toujours avec l'Université de Bordeaux, en le découpage de la mince, le pourtour de l'échantillon, tout au long de l'échantillon. Si vous voulez, j'ai découpé, en fait, l'échantillon qui était plus ou moins circulaire, en 12 fragments continus. Et c'est ces 12 fragments qui sont à l'origine des 12 images produites. Elles sont chacune uniques. J'en présente que 10 en cohérence avec l'accrochage des cotelles, des peintures. Et donc, pour répondre à votre question initiale, comment répondre aux questions qu'on me pose le soir du vernissage ? En fait, la meilleure réponse que j'ai trouvée, c'était d'avoir un morceau de gypse dans ma poche. Si vous voulez, c'est ce qu'il y a de plus signifiant. C'est-à-dire que je présentais aux personnes qui se questionnaient sur l'origine des images, je leur présentais un morceau de caillou, en fait, blanc.
En fait, là, en vous écoutant, je me dis que ce qu'on utilise généralement comme métaphore de la révélation photographique, elle est très opérante concernant ce que vous avez fait Dov Alouche, parce que c'est par la polarisation, c'est par cette révélation sur le papier photographique que le gypse vous a parlé. Vous a dit, en moi, j'ai toutes ces couches.
Absolument. Alors, si vous voulez...
J'ai tous ces cristaux, j'ai tous ces sédiments.
Vous avez figure, en fait, sur les images, les couleurs qui correspondent aux cristaux.
Qui vous renseignent sur sa composition.
Absolument, vous avez raison. Et par ailleurs, en fait, si vous voulez, la structure du gypse lui-même, le gypse, c'est une pierre qui est très tendre. Et du coup, si vous voulez, le long de sa remontée, donc c'est un voyage. Il faut imaginer le voyage, en fait, de cet échantillon, de cette pierre, en fait, qui vient vraiment du fin fond de la terre, si vous voulez, et qui remonte à la surface. Ça lui prend plusieurs millions d'années. Et pendant ce voyage, en fait, il va être choqué. Et les fibres, en fait, qui constituent l'échantillon, vont se déformer, vont se casser, vont se réorienter. Et les images qu'on voit, en fait, c'est à la fois, si vous voulez, la structure de ces fibres et les couleurs, en fait, générées, émises par les cristaux.
Est-ce que c'est intéressant d'entendre tous les mots que vous venez de prononcer, Dov Alouche, mais dans un autre champ, quand on dit un voyage qui prend du temps et quelque chose qui est choqué? Je sais pas, d'un seul coup, je pense juste à l'exil, à la manière dont les gens se déplacent, à la manière dont les gens se déplacent très longtemps comme ça dans l'histoire de l'humanité. Est-ce que c'est un parallèle qui vous intéresse?
Là, si vous voulez, on est sur des quantités de temps qui sont énormes.
Bien
donc,
sûr.
Je pensais pas du tout à ça, hein, pour être honnête, mais pour moi, si vous voulez, c'était une question. La question, c'était d'une part de rajeunir Versailles et puis de faire dialoguer Versailles avec une temporalité, si vous voulez, qui une chronologie qui est immense et qui ramène les choses non pas à l'échelle de notre histoire en tant que pays. pays que français, etc. Mais on est sur des temps géologiques, en fait. Et donc, je ne pensais pas du tout, en fait, à la question de l'exil par rapport à cette histoire de... Enfin, si vous voulez, les temps géologiques, en fait, bien sûr, nous informent sur... l'existence de nos prédécesseurs, vous avez raison, mais des aïeux alors très anciens, si vous voulez, qu'on connaît pas, en tout cas qu'on n'a aucune raison de connaître en dehors que dans des récits préhistoriques, voilà.
Cette notion du temps qui s'écoule, c'est quelque chose qui finalement est le point de départ de la notion de temps et qui est dans notre esprit. Autrement dit, il y a une chose qui est incontestable, c'est que nous avons le sentiment que pour chacun de nous, disons, en ce qui nous concerne, le temps s'écoule. C'est-à-dire, moi, j'ai l'impression que le temps s'écoule. Et comment je m'aperçois que le temps s'écoule ? Ben, tout simplement parce que j'ai l'impression de vieillir, ou pour le dire de manière moins péjorative, peut-être de grandir, enfin d'évoluer. Et comment je sais que j'évolue ? Eh bien, parce que je me souviens d'avoir été différent. Je me souviens d'avoir été plus jeune. Je me souviens d'avoir été quelqu'un de différent. Je me souviens d'avoir vécu certains événements. Alors, notre impression du temps, elle est due à la mémoire. Nous n'aurions pas de mémoire, nous n'aurions aucun sentiment, aucune impression de l'écoulement du temps. Donc, nous avons tous, chacun personnellement, un sentiment de l'écoulement du temps. Il y a quelque chose qui, pour moi, personnellement, s'écoule, et c'est le temps. Je m'en souviens, je lis ça aussi à mon temps physiologique, au battement de mon cœur, etc. Ensuite, puisque je constate que Étienne, ou tous mes... congénères avec qui j'ai des relations sociales partagent la même expérience, on peut faire une sorte d'hypothèse, une sorte d'ansatz, et c'est exactement l'hypothèse qu'a fait Newton, c'est que puisque nous avons tous l'impression qu'il y a un temps qui s'écoule pour nous, pourquoi ne pas faire l'hypothèse que tous ces temps personnels que nous ressentons ne sont que le reflet d'une sorte de temps universel ? Et ça, c'est l'hypothèse newtonienne extraordinaire. Il existe un temps universel qui s'écoule partout dans l'univers, qui s'écoule en ce moment ici, mais le même temps s'écoule à l'autre bout de la galaxie, à l'autre bout de l'univers, à des milliards d'années-lumière. C'est une hypothèse extrêmement forte, extrêmement audacieuse. Et dans la mesure où on a pu la vérifier pendant les 3 siècles qui ont suivi Newton, elle a fonctionné. Et non seulement elle a fonctionné, mais c'est une hypothèse qui finalement a participé à la fondation de la physique moderne. Seulement petit à petit, donc ça c'est toute la démarche einsteinienne qui suit la crise du 19e siècle, on s'est aperçu que ça marchait pas. Donc il a fallu changer. Mais effectivement, la bonne question, comme vous l'avez posée, c'est comment se fait-il, si le temps n'existe pas, que nous avons cette impression ?
La joie, comme ça. Je trouve sautillante des physiciens. Au micro d'Étienne Klein, sur France Culture, c'est Marc Lachiezeray en 2014. Notre impression du temps est liée à la mémoire et donc il décrit lui aussi une sorte de voyage, très long voyage, du concept même du temps, depuis un temps universel jusqu'à quelque chose de plus relatif. De Valouge, on l'a entendu dans ce que vous décrivez de votre travail effectué récemment à Versailles et puis on va l'entendre ensuite quand on va parler des œuvres qui sont exposées en ce moment au Centre Pompidou. Vous y êtes attaché à cette histoire de temps. En tout cas, c'est quelque chose que vous questionnez de plein de manières différentes. Qu'est-ce qui vous travaille ? Qu'est-ce qui vous inquiète ? Qu'est-ce qui vous questionne là-dedans ?
Alors, oui, vous avez raison. Hein, j'ai un attachement à la question du temps parce que ça me semble être,
la nôtre.
Enfin, c'est un sujet quand même fondamental. J'ai pas plus d'attachement à cette question, à cette question-là que vous. Sauf que peut-être que j'essaye de formuler des œuvres à partir de ces questions-là. Alors, je fréquente aussi les scientifiques et les physiciens. Je m'intéresse aussi à ces lecture-là, si vous voulez, et ça participe un peu comme ça à développer mon imaginaire. Cette question du temps, si vous voulez, elle est jamais ramenée à l'échelle de ma propre existence, en fait, hein, je travaille pas du tout à partir de souvenirs personnels ou de quelque chose qui serait de l'ordre de mon propre pathos. Hein, j'aime cette idée, finalement, que par parlait du temps universel dans l'archive, si vous voulez, que les choses sont liées. C'est-à-dire qu'il y a des liens évidents entre l'axe d'obliquité de la Terre, de sa rotation, de la formation des stalagmites. Finalement, il y a des liens d'ailleurs réels hein, entre le cosmos et des concrétions au fin fond des cavernes, en fait. Et cette idée, finalement, que des éléments, que tout sépare, soit lié par des forces qui, moi, m'échappent, si vous voulez, c'est une idée qui me fascine et je me questionne autour de cette fascination-là exactement comme un enfant. C'est-à-dire que je me pose les questions de façon extrêmement naïve sur l'air qu'on respire, sur l'âge qu'ont les pierres, sur le temps qui sépare la perception d'une étoile et son mouvement. Enfin, vous voyez, sur le ressac
des vagues.
Et finalement, les sciences physiques, c'est ça. Il me semble. Hein, les premières questions, elles sont de cet ordre de grandeur-là, en tout cas de ce niveau de simplicité-là. Donc moi, si vous voulez, j'ai.
Elle part de l'observation, en fait.
Hein, ça part de l'observation
du monde et ça cherche à l'expliquer, à le mettre en. Parce que vous dites finalement, ce qui m'intéresse, c'est que des choses qui paraissent comme ça très éloignées deviennent reliées. Elles sont aussi reliées par la force de nos concepts. Elles sont reliées par la force de notre pensée humaine. Parce qu'on est aussi en mesure de les penser reliées au-delà de l'existence de ces forces. Mais est-ce que depuis tout le temps, de Valouche, votre pratique artistique, elle a articulé ça? C'est-à-dire votre observation, vos questions, et des lectures plus pointues, des lectures plus scientifiques?
Écoutez, je pense que ça a commencé depuis le début, en fait, sans que je m'en rende compte. C'est-à-dire que j'avais une approche comme ça, un peu asymptotique, en fait, de ces questions-là, pendant mes années de formation. J'ai moi-même, en fait, démarré, ou en tout cas eu un double cursus, puisque pendant ma période de formation aux Beaux-Arts, j'ai aussi eu une formation en école d'ingénieur, en fait, sur un cycle très court. Mais j'ai assez vite, si vous voulez, renoncé à la compréhension de ces phénomènes du point de vue de la science, en fait. C'est-à-dire, j'accepte que les choses me dépassent et ensuite j'ai une approche extrêmement intuitive et une approche empirique en fait des éléments. Je cherche, comme vous le disiez tout à l'heure, évidemment, en fait, je cherche ensuite d'établir autour de ces intuitions des connaissances de réserve, en fait, hein, autour de sujets qui m'intéressent à des instants T. Donc, et là, en fait, ces connaissances de réserve, en fait, elles sont faites de rencontres avec des universitaires, avec des chercheurs, des observateurs, comme vous disiez tout à l'heure. Mais finalement, moi-même, je travaille comme un observateur. Mmh. Et vous savez, par exemple, j'ai longtemps travaillé avec l'Observatoire de Paris-Meudon. Il a fallu, avant que je fasse mes premières images, en fait, que j'observe les archives de la clichothèque du niveau moins 1 de l'observatoire de Meudon, et ça m'a pris quelques années. C'est un peu comme l'image des maîtres qui font des ikebana, vous savez, ces arrangements floraux, en fait, au Japon, où il leur faut 10 ans avant, enfin 10 ans d'études avant de se lancer eux-mêmes, en fait. Donc il y a peut-être
finalement, c'est ça aussi, dans vos images ou dans les œuvres que vous exposez de Valouche, il y a aussi une sédimentation. Si je vous écoute, c'est la fréquentation pendant des années des images préalablement faites à l'observatoire de Meudon, qui se retrouve peut-être sédimenté de manière aveugle dans l'image que vous finissez par produire.
Oui, il y a de ça. J'ai pendant très longtemps, si vous voulez, réalisé des cahiers d'études. Je n'ai fait que ça, en fait, pendant mes années de formation. J'ai dû en faire peut-être 200, 300. Il n'y avait rien d'autre que ces cahiers d'études. C'était comme des partitions à l'intérieur desquelles était présent déjà l'ensemble de mes sujets. Et il a fallu attendre, donc peut-être pas 10 ans, mais à peine moins, avant que je formule, en fait, des premières hypothèses d'œuvres.
Vos propres réalisations.
Exactement, qui sont aussi des hypothèses en fait, hein, puisque c'est il y a rien de didactique en fait dans ces propositions là, puisque elles révèlent aucune réalité scientifique, elles ont une existence physique, elles sont rattachées au champ de l'art, et c'est une volonté de ma part bien sûr, hein, mais en dehors de ce contexte là, elles n'ont pas d'autre existence, vous comprenez. Et il m'a fallu du temps, oui, il m'a fallu du temps pour formuler ses propres réalisations. Donc il y a d'abord ce temps, ce temps qui m'est propre, et ensuite le temps des sujets eux-mêmes, en fait. C'est souvent des lieux qui sont ou bien inaccessibles, ou bien des lieux dans lesquels on va accompagner, si vous voulez. Ça parle d'accompagnement aussi, toutes ces œuvres, en fait. Et ces accompagnements, enfin, ces compagnons, je veux dire, il faut aller les chercher, il faut les rencontrer, il faut entretenir avec eux, si vous voulez, des relations à la fois de... Il faut se faire comprendre, en fait, c'est ça la difficulté. Et j'ai pas du tout, de bagage scientifique suffisant, si vous voulez, pour expliquer mes intuitions auprès d'un laboratoire de recherche. Donc il faut que je me fasse comprendre. Et j'ai les mêmes difficultés dans le milieu de l'art, vous comprenez, c'est ça. Mais en amont, c'est-à-dire que...
D'autant que j'allais dire que vos intuitions, elles sont probablement pas scientifiques. Quand vous vous adressez à des scientifiques, votre difficulté d'expression de vos intuitions, elles sont aussi que... Elles sont artistiques, elles sont plus probablement dans le champ du sensible quand même, Dovalouche.
Face
à ces gens-là, vous ne formulez pas des hypothèses de révélation scientifique, vous leur dites pas « suivez-moi » parce que franchement, je vais vous faire découvrir quelque chose.
Ah non, surtout pas. Mais je le dis pas plus, si vous voulez, à des gens en fait qui seraient plus familiers du milieu de l'art, si vous voulez. Donc non, je leur dis surtout pas ça, mais... Ces intuitions, si vous voulez, il faut bien trouver les moyens de les partager avec ces gens-là. Donc en fait, ça passe par la question du langage, si vous voulez. Il y a une série, par exemple, de photographies en fait qui était antérieure aux évaporites de Versailles, en fait, qui est la première série pour laquelle j'ai utilisé ce système de la mince. Et c'est une série photographique qui naît d'une contrainte. Et là, l'idée, c'était de travailler à partir de formations stalagmitiques, donc de stalagmites, si vous voulez, c'était des blocs de calcite. Hein, donc j'ai utilisé la calcite avant d'utiliser le gypse, pour d'autres raisons, puisque la calcite, en fait, les stalagmites, c'est le meilleur marqueur, justement, temporel, avec les pôles, hein, qui soient... Et du coup, j'avais pas accès en fait au site, hein, et j'étais évidemment pas habilité à prélever par moi-même. Donc, il a fallu que je me rapproche, si vous voulez, de paléoclimatologues, et notamment de Dominique Gentil, en fait, qui travaillait à Orsay, maintenant qui travaille au laboratoire de Bordeaux également. Et on a choisi ensemble, enfin plutôt j'ai orienté mes choix auprès de lui sur certains stalagmites. Et très vite, si vous voulez, l'idée, en fait, c'était justement que l'intuition de départ, c'était que cette extraction, en fait, qui venait, alors là, en l'occurrence, en fait, c'était le plancher stalagmitique de la grotte Chauvet, en plus. Donc, vous savez, la grotte Chauvet, c'est un lieu dans lequel il est strictement interdit de faire des images. Hein. Toute iconographie, en fait, du site est protégée. Par différents ministères, je crois.
Vous parlez des reproductions ou de la grotte, la première ?
Ah non, je parle de la grotte, de la grotte authentique. Hein. Et du coup, j'avais très envie de faire quelque chose sur place, avec l'impossibilité de faire aucune image. Et en fait, moi-même, qui ne suis pas du tout photographe par ailleurs, donc c'était une contrainte, si vous voulez, qui m'allait. Mais il fallait trouver le moyen de faire des images. Et donc, de cette contrainte... est née cette idée de prélèvement dont je parlais tout à l'heure, et finalement l'idée, c'est que ces stalagmites, ce plancher, le sol, le plancher de chauvet, si vous voulez, ce plancher qui a été foulé aussi bien par des ours que par nos prédécesseurs. Ce plancher, il est resté dans l'obscurité de la grotte pendant plusieurs millions d'années aussi. Et mon idée, c'était d'en faire quelque chose, une image, si vous voulez, de trouver le moyen de rendre transparent et de le transpercer comme ça de rayons lumineux pour qu'il produise une image. Et en fait, l'idée, c'est que cette image, en fait, c'était l'image de d'un éblouissement. En fait, c'est le minéral, en fait. Finalement, la première fois qu'il rencontre la lumière, c'est pour produire une image. J'avais cette intuition-là, si vous voulez, que j'étais incapable de formuler. Et en fait, c'est vraiment de façon très empirique et expérimentale que j'en suis venu en fait à l'idée du ponçage, en fait, si vous voulez.
L'aspect le plus curieux de l'étude consacrée par Georges Bataille à Lascaux est peut-être la manière dont elle inaugure le recours à la photographie en couleur dans la représentation des célèbres peintures pariétales. Bataille charge cette invention, datée mais encore nouvelle, de montrer que les peintures pariétales sont elles-mêmes une technique de remémoration et de commémoration d'une naissance de l'humanité. Mais Bataille, inquiet qu'il est devant la guerre nucléaire, n'est pas d'humeur à célébrer, je cite, que la lumière se fasse sur notre naissance, au moment même où la perspective de la mort nous apparaît. La définition de l'humain par Bataille est symptomatique du désarroi nucléaire ressenti par son époque. Éloigné de toute vanité philosophique et de toute traduction politique, et même doublement nostalgique, pour un passé profond qui en imagine un plus profond encore. Il fait basculer cette signification esthétique dans une théorie de l'histoire et du temps fragmenté. Rappelons-nous cet enchaînement de boucles. Des représentations parvenues jusqu'à nous nous ramènent à une naissance, et plus en amont, à l'animalité, mais aussi en aval, vers la maîtrise de cette animalité, avec un retour au présent et à la concrétisation de cette maîtrise. Mais seulement sous la forme d'une mort collective imaginée. Cet abîme représentationnel qui sépare l'homme de l'animal met en jeu une certaine négation minimale. L'humain vise un mouvement à travers l'abîme. Un geste le conduisant vers le non-temps qui précède sa propre création. Et il peut, lui aussi, être l'objet d'une réappropriation par une machine qui, pour la première fois, mais le temps d'un siècle, se dispense des reproductions manuelles au profit d'un réalisme différent, inhumain. Durant ce bref moment, les photographies de Lascaux demeurent nouvelles, alors que la photographie est au sommet de son influence et s'apprête à tomber dans l'obsolescence. Bataille traque l'oublié, lui aussi. C'est pourquoi il met les peintures et les humains hybrides qui les ont réalisées en suspens entre leur époque et cette durée apocalyptique à la fois si brève et intime qui les sépare de l'état de victime du tourisme. Le temps ne s'est pas figé, des couches de temporalité se sont simplement fossilisées dans un livre, depuis un passé incompréhensible jusqu'à une modernité marquée par un accès autodestructeur à toute chose.
France Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux avec Dove Alouche.
Dove Alouche, je lisais à l'instant un extrait d'un texte qui est publié dans le catalogue de préhistoire, l'exposition actuellement visible au Centre Pompidou où vous exposez plusieurs œuvres. On parlait tout à l'heure de ce qui est exposé à Versailles, mais on va faire des ponts. C'est un texte qui s'appelle « Les traqueurs d'un monde oublié, les peintres de Lascaux vus par Georges Bataille » de Stéphanos Gérolanos, et qui évoque la manière dont Bataille parlait de ces peintures-là et de la photographie et du danger nucléaire en 1955. Peut-être pour faire le lien avec ce que vous disiez de votre intuition, en disant « j'avais envie de prélever un peu de matériaux de ce plancher des grottes de Chauvet » avec l'intuition d'un éblouissement. Parce que je trouve important le lien ou la manière dont Bataille articule ça, les peintures de Lascaux, avec la photographie. Comment est-ce que vous parleriez de votre rapport à ça, à la photographie ? Parce qu'en fait, il est aussi beaucoup question de ça dans votre travail de Valouche.
Alors, pour rebondir sur le texte de Bataille, en fait, oui, il y a la question de la naissance de l'image hein, et de comment dire de l'espace ouvert, en fait, après ces premières images qui sont d'une part découvertes puis photographiées, et il y a la question de la destruction de la grotte de Lascaux aussi, qui a été quand même un carnage absolu. Enfin, finalement, la conservation s'arrête avec la découverte à Lascaux quasiment, et d'une certaine façon. La grotte Chauvet, vous savez, c'est le parti pris en fait, les partis pris en fait de conservation du site c'est une sorte d'anti Lascaux en fait. Par rapport à la question de la photographie, du photographique, ce qui m'intéresse, moi, c'est vraiment la question de la, encore une fois, du surgissement en fait, de l'accident, c'est-à-dire de l'image par accident. C'est des images en fait qui parlent. Enfin, c'est des photographies de la photographie, si vous voulez, qui s'affranchissent du médium en fait quelque part. Et la photographie, ça peut aussi bien être ce qui se passe entre la plaque de verre et la gélatine, vous comprenez. Enfin, il y a eu toute une histoire comme ça, des photographies ratées, par exemple, et qui pourtant ont été impressionnées par différents sujets. Hein, par exemple, un des pionniers de l'astrophotographie, je pense à lui, à fin du 19e, enfin presque à la fin du 19e, Isaac Roberts, qui avait eu l'intuition justement de réaliser un atlas de photographie stellaire et
sa première année.
Alors c'est une carte des étoiles, hein, c'est la première carte des étoiles. Mais enfin, on n'est pas loin du sujet des grottes. Hein, si vous voulez, cette première année de recherche en fait qui fait est totalement infructueuse et pourtant. Toutes les plaques photographiques qu'ils réalisent, il y en a plus d'une centaine, elles sont répertoriées avec le temps sidéral, le numéro d'inventaire, etc., directement gravées sur le verre. Et et ça m'a souvent questionné, en fait. Il les inventorie, si vous voulez, de façon très rigoureuse, parce qu'il considère, justement, en fait, que le sujet, il est, il obtient uniquement des nuances de gris, si vous voulez, sans sujet apparent. Et finalement, l'artefact en fait qui devient sujet. C'est des plaques qui ont été mal conservées, ou alors des poussières, des rayures, et ces artefacts en fait se substituent aux étoiles elles-mêmes. En fait, on ne sait plus bien ce qui fait image et ce qui est de l'ordre de l'artefact dans ces images. Et je parle d'Isaac Roberts, mais enfin, finalement, si vous voulez. On peut très bien parler d'archéologie ou de spéléologie en parlant d'astrophotographie. Il y a un texte comme ça.
Pour vous, c'est les deux pôles d'une même histoire, en fait.
Et pas que pour moi. Je veux dire, il y a un texte absolument magnifique de Martel qui s'appelle L'inaptitude des stalagmites, où il nous explique que la question, finalement, des formations des grottes est liée. À la question de l'écoulement, vous savez, à l'eau, en fait. Hein. Et cette eau, en fait, elle provient des saisons. Et les saisons, elles proviennent de l'obliquité de la Terre, donc de l'axe, en fait. Donc, si vous voulez, les saisons, elles ne sont pas linéaires, Contrairement à ce qu'on a pensé pendant longtemps, les formations de toutes ces grottes, en fait, les lignes de dépôt ne correspondent pas, comme pour les arbres, les sections d'arbres, par exemple, si vous voulez, une ligne égale une année, en fait. C'est beaucoup moins linéaire que ça. Et finalement...
Mais vous avez quoi dans votre main?
Une Vénus. Un bâton enroulé, en fait. Non, c'est une sorte de gris-gris, en fait, offert par mon fils, en fait, qui s'intéresse D'accord. à l'archéologie. Et du coup, si vous voulez, j'en étais
assez... Ah oui, non, pardon, c'est moi qui...
À ces histoires de dépôts, en fait. Donc, pour moi, en fait, à la fois, si vous voulez, on est sur des pôles opposés, et en même temps, c'est exactement le même sujet. Mmh. Et... par rapport à la question de la photographie, donc c'est ça, moi ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est de réfléchir à des moyens de faire de la photographie de la photographie, en m'affranchissant à la fois de l'outil et du médium lui-même, en fait, voilà. Donc,
Et ça, par exemple, donc le travail que vous faites à partir de ce prélèvement de la grotte Chauvet, donc on a bien compris que c'est aussi tout le processus de franchir une première impossibilité qui vous intéresse, Dovalouche, c'est-à-dire finalement c'était impossible, en fait ça devient possible de faire une image parce que vous réussissez à faire un prélèvement dans cette grotte et que par des procédés que vous apprenez à maîtriser, une image naît. Et c'est ça que vous nous montrez. Et moi j'aimerais qu'on parle d'autre chose, les autres images qui sont accrochées en ce moment au Centre Pompidou, qui s'appellent Perles, et qui elles aussi semblent nous arriver de très loin. Je le disais, moi je les ai découvertes à la lueur d'un téléphone portable, et ça a accentué l'impression que presque c'était des images depuis le fin fond de l'eau, quoi, qu'il y avait quelque chose qui était vraiment des pierres très 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 loin trouvées sous l'eau. Alors c'est quoi ces photos?
Ah, donc vous étiez sérieuse en fait quand vous parliez de la pâte d'électricité.
Ah ouais. Je suis arrivée dans la salle, il était noir.
Ah oui, non mais c'est extraordinaire.
On était toutes les deux, j'étais avec la jeune stagiaire du service de com qui s'appelle Camilla, qui a sorti sa lampe torche téléphone portable, qui a éclairé vos œuvres et en fait, elle vibre déjà parce qu'ensuite la lumière s'est rétablie plusieurs minutes après, mais elle vibre déjà ses œuvres mais à la lueur d'une lampe torche. D'un téléphone portable, c'était vraiment... on avait l'impression qu'on regardait de l'eau, quoi.
Bah, en fait, si vous voulez, d'une certaine façon, cette série, la série des perles... alors, vous avez raison, c'est à la fois des images, mais en même temps des objets spécifiques, puisque les verres qui sont associés aux images, qui, comme vous avez pu le voir peut-être avec la lueur de votre torche, c'est des verres soufflés, donc c'est des verres qui sont particuliers, puisqu'ils ont une forme, une surépaisseur en leur centre, avec des circonvolutions qui partent du centre et qui vont vers l'extérieur. Alors avant de parler des verres et de l'association des verres aux images, les images elles-mêmes, en fait, si vous voulez, correspondent à la naissance de la sculpture d'une certaine façon, puisque...
Ça fait beaucoup de fois qu'on parle de la naissance, quand même.
Ah ben, c'est... c'est une... Enfin, on ne finit pas de naître, si vous voulez. Et cette naissance, en fait, de la sculpture, vous savez, c'est un grain de sable. C'est un grain de silice, un nucléus, ça part du noyau, hein, toujours, donc le noyau. Et ce noyau, donc, il va rencontrer une première goutte d'eau, puis une seconde, puis 10 000 autres, sur des échelles de temps très, très, très longues, encore une fois. Et il va tournoyer sur lui-même, en fait, ce grain de sable. Et autour de lui, il va y avoir une calcification. Et ça va produire ce qu'on appelle des perles de caverne. Donc c'est des objets qui sont très rares. En somme, c'est des sortes de stalagmites sphériques.
C'est incroyable.
Et les perles de caverne, leur nom savant, c'est les pisolites. Donc j'ai utilisé en fait des perles de caverne qui ont été découpées. Et ces perles de caverne, donc en fait, elles sont... on voit bien en fait qu'autour du nucléus, hein, qu'autour du noyau, en fait, on a toutes ces circonvolutions de dépôt de calcite. Et chaque ligne de dépôt, si vous voulez, correspond presque à une saison, finalement. Mais on peut lire aussi, pour un œil aguerri, tout un tas d'informations dans ces dépôts. C'est-à-dire que, à la fois des informations sur le climat, l'atmosphère, le passage des hommes, des dépôts de carbone, les feux dans les grottes. Vous avez vraiment, donc c'est un c'est un recorder très très puissant en fait.
C'est un document fascinant sur ce qui s'est passé en fait.
Sur ce qui s'est passé et qui est pas plus grand qu'une bille, vous voyez. Et l'idée en fait, c'était d'associer ces images de
qui
perles.
Qui sont des photographies du coup? Classique.
Qui sont des photolithographies. Donc en fait, si vous voulez, c'est un procédé qui est entre l'image photographique et la gravure, en somme. Parce que je voulais absolument avoir à la fois la matité de la calcite, de la matière elle-même. À chaque fois, si vous voulez, je pratique. Enfin, toutes les images que je produis sont uniques, en fait. Je cherche toujours le moyen le plus long possible de contourner la photographie. Et qui sont à la fois, si vous voulez, qui sont pas du tout, qui sont des détours qui me permettent de réfléchir en fait aux images elles-mêmes. C'est pas du tout par pur maniérisme que je fais ça ou dédain en fait de la photographie. C'est qu'en fait, si vous voulez, je refuse de me satisfaire en fait des outils en fait qu'on nous met à disposition en fait pour produire des images. Donc c'est toujours une recherche aussi autour de l'outil. Et
l'association avec le verre alors?
Ah bah donc l'association avec le verre, si vous voulez. Donc le verre, comme vous le savez, l'élément qui le constitue, l'élément principal qui le constitue, c'est la silice. Donc c'est une forme de sable aussi très pure. Et c'est exactement, si vous voulez, ce qui est à l'origine des perles. Hein, c'est ce même sable. Et ces verres, donc. Ce sont des verres soufflés qui ont été réalisés au Centre international de recherche sur les verres, le CIRVA, à Marseille. Et donc ces verres, en fait, si vous voulez, c'est des grandes cives, ce sont des grands disques de 80 cm de diamètre qui ont été découpés au format carré, comme vous avez pu le voir. Et donc ça part du souffle, du verrier. Le verre ensuite est soufflé sous forme de sphère. L'objet en fait commence par la sphère et ensuite cette sphère elle est ouverte comme une fleur donc pour faire un disque. Donc il y avait pour moi évidemment des relations analogiques entre les perles qui sont des sphères et la sphère de verre soufflé. Et ensuite donc cette sphère quand elle est ouverte, la sphère de verre, elle a en son centre, une surépaisseur en fait qui fait presque effet loupe et qui coïncide parfaitement, si vous voulez, au nucléus en fait de la perle. Et donc on a un effet zoom comme ça sur l'origine en fait, sur la naissance de cet objet qui est la perle. Et en même temps, le verre, structurellement, en fait, il se déploie toujours de façon circulaire. Et donc, ça rappelle également, si vous voulez, les ricochets un peu. Pour ça, vous pensiez que vous aviez
une vision de quelque chose que je regarde depuis la surface de l'eau.
Voilà, c'est ça. Ça a renvoyé vers un élément comme ça aquatique. Et vous avez eu raison, parce qu'en fait, si vous voulez, la question, c'est la question du splash, en fait, de la goutte d'eau. La naissance de cette perle, c'est la goutte d'eau qui est répétée sur des millions d'années, et l'évocation de ce verre, c'est le splash, donc
les cercles
qui se forment autour de l'impact de la goutte sur une surface.
Alors, comment imaginez-vous que nous regardons ça? Parce que ça, c'est mystérieux. La plupart du temps, vous n'êtes pas à côté de nous pour nous raconter. En plus, j'imagine que vous avez encore, 300% de ce que vous venez de nous dire à nous raconter. Alors, c'est intéressant, parce qu'il y a comme une sorte de monde incroyable de votre production, de votre pensée, de votre réflexion. Bah. Et nous, on est devant l'objet. Bah, quand on est généreux, on passe 5 minutes devant l'objet. Comment vous vous imaginez notre regard ? sans connaissance de ça la plupart du temps.
Ben, pour vous répondre, je suis obligé de penser à mon propre regard sur les œuvres des autres aussi. Mm-hmm. Je dirais, la plupart des œuvres, en fait, qui me fascinent, sont celles pour lesquelles j'ai aucune relation rationnelle, si vous voulez. Je cherche pas d'explication du reste, en fait, si vous voulez. Donc, ça me porte à un endroit, justement, qui, euh, qui échappe un peu comme ça au monde de la raison, si vous voulez. Donc, je sais pas comment, j'ai pas idée évidemment de la réception en fait de mes œuvres en fait sur vous ou en tout cas sur les regardeurs, mais j'espère que ces œuvres en fait elles peuvent être appréhendées, regardées de 15 000 manières différentes, avec ou sans ma parole qui les accompagnerait, si vous voulez. Elles sont autonomes d'ailleurs, hein, puisque moi quand chaque série d'œuvres, si vous voulez, m'embarque comme ça sur des peut-être pas des décennies, mais sur des au moins 2, 3, 4 ans. Une fois que la série est terminée, si vous voulez, je suis totalement défait de la série, c'est-à-dire que je ne m'y intéresse plus du tout. Je suis un mauvais père de ce point de vue-là, vous comprenez. Donc
Mais vous avez un super gris-gris. Merci beaucoup, Dov Alouche. On peut voir donc plusieurs de vos œuvres en ce moment dans l'exposition Préhistoire au Centre Pompidou à Paris. Et on peut voir aussi les œuvres dont nous avons parlé dans la Galerie des Cotels au Château de Versailles, au sein de l'exposition Visible et Invisible. Et pour ces deux expositions qui se terminent en octobre, quasiment en même temps, il y a des catalogues extraordinairement fournis. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Marie.
Patrick said, "Be still." Said, "I'm as old as the stars above." Thermometers tell bad things. I lay into high. they robbed me of my rest. There is a home, shines bright and fair. It is as old as stars above. We'll meet the ones that loved us there, and know the source of hate and love. Saint Patrick said, be still. He said, where we go, don't you bring any thoughts of what awaits thee. Only know there we can sing. Said you can't have an exchange with the source of hate and love. Like sun it gives and to like it's as old as stars above. It's as old as stars above.